أكل بيث. La chute de Numenor. On dit chez les Eldar que les hommes vinrent au monde au temps de l'ombre de Morgoth et qu'ils tombèrent rapidement sous son empire, car il envoya parmi eux des émissaires et les hommes prêtèrent l'oreille à ses discours perfides et malveillants. Et ils vénéraient les ténèbres en même temps qu'ils les craignaient. Mais certains d'entre eux se détournèrent du mal, quittant le pays de leurs ancêtres et tournant leurs pas vers l'ouest, car ils avaient entendu dire qu'il y avait là une lumière que l'ombre ne pouvait obscurcir. Les serviteurs de Morgoth les pourchassaient avec haine, et leurs voyages furent longs et difficiles. Mais ils finirent tout de même par gagner les terres en vue de la mer, et ils entrèrent en Beleriand à l'époque de la guerre des joyaux. Ils avaient pour nom Edain, en langue Sindarin, et ils devinrent les amis et les alliés des Eldar, et accomplirent de valeureux exploits dans la guerre contre Morgoth. De leur lignée fut issu, par la branche de ses pères, Earendil le Brillant, et il est dit dans le Lai d'Earendil comment il construisit son navire Vingiloth, que les hommes nommèrent Hrothinsil, alors que le triomphe de Morgoth était presque complet, et quel fut son inlassable périple sur les mers inexplorées en quête du Valinor, car il désirait s'adresser aux puissances au nom des deux peuples, afin que les Valar prennent pitié d'eux et leur envoient de l'aide dans leur détresse. C'est pourquoi elfes et hommes l'ont appelé Earendil le Béni, car il accomplit sa quête après un long labeur et de périlleuses épreuves, et le Valinor envoya l'armée des seigneurs de l'Ouest. Mais Earendil ne revint jamais dans les terres qu'il avait tant aimées. Dans la grande bataille, qui amena enfin la chute de Morgoth et la destruction du Thangorodrim, seuls les Edain, de tous les peuples des hommes, se battirent pour les Valar, alors que bien d'autres le firent pour Morgoth. Et après la victoire des seigneurs de l'Ouest, les hommes mauvais qui en réchappèrent s'en retournèrent dans l'Est, où bon nombre de leurs semblables continuaient d'errer dans les terres incultes, sauvages et sans loi, refusant les appels des Valar comme ceux de Morgoth. Et les hommes mauvais se mêlèrent à eux, et ils firent planer une ombre de terreur sur ces gens, qui les prirent pour rois. Alors les Valar abandonnèrent un temps les hommes de la terre du milieu qui avaient refusé leur injonction en se plaçant sous la suggestion des amis de Morgoth. Et les hommes vécurent dans les ténèbres, et furent troublés par tous ces êtres maléfiques imaginés par Morgoth au temps de sa domination. Démons, dragons et bêtes monstrueuses, et les orques impurs, conçus en dérision des enfants d'Ilúvatar. Et les hommes subissaient un triste sort. Mais Manwë chassa Morgoth et le confina au-delà du monde dans le vide extérieur. Et il ne peut revenir au-dedans du monde, présent et visible, tant que les seigneurs de l'Ouest régneront. Cependant, les graines qu'il avait plantées continuaient de prospérer et d'éclore, portant leurs fruits diaboliques pour peu qu'on les entretînt. Car sa volonté demeurait et guidait ses serviteurs, toujours portés à contrecarrer la volonté des Valar et à écraser ceux qui leur obéissaient. Les seigneurs de l'Ouest le savaient d'ailleurs parfaitement. Quand donc ils eurent chassé Morgoth, ils tinrent conseil à propos des âges à venir. Ils appelèrent les Eldar à revenir dans l'Ouest, et ceux qui répondirent à l'appel vécurent à Tol Eressëa. Et il y a là un havre qui a pour nom Avalonné, car cette ville est la plus proche qui soit du Valinor, et la tour d'Avalonné est la première chose qui s'offre à la vue des marins lorsqu'ils approchent enfin des terres immortelles par-delà les lieux de la mer. Une riche récompense attendait également les pères des hommes des trois maisons fidèles. Et Onwë vint parmi eux et leur enseigna, et on leur donna sagesse, pouvoir, et une vie plus longue qu'aucun de race mortelle n'en eut jamais. Une terre fut créée à l'intention des Edain, qui ne se rattachait ni à la terre du milieu, ni au Valinor, car séparée de l'une et de l'autre par une vaste mer, encore qu'elle fût plus proche du Valinor. Ce fut Ossé qui l'attira des profondeurs de la grande eau, et Aolé l'enracina, et Yavanna enrichit son sol. et les Eldar y apportèrent des fleurs et des fontaines de Tol Eressëa. Les Valar nommèrent ce pays Andor, le pays du don, et l'étoile des Arendil se fit plus brillante dans l'ouest, en signe que tout était prêt, et pour diriger les navires sur la mer. Et les hommes s'émerveillèrent de voir cette flamme d'argent sur les sentiers du soleil. Alors les Edain firent voile sur les eaux profondes, guidés par l'étoile. Et les Valar y firent régner le calme pendant de nombreux jours. Et ils envoyèrent du soleil et un vent favorable, si bien que l'onde étincelait sous les yeux des Edain comme un frémissement de verre, et que l'écume volait comme de la neige à la proue des navires. Mais Rothinzil était si lumineux qu'on le voyait encore au matin, scintillant dans l'ouest, et il brillait seul dans la nuit sans nuages, car toutes les autres étoiles s'inclinaient devant lui. Enfin, tenant le cap, ils franchirent les lieux de la mer et aperçurent au loin la terre qui leur était promise, Andor, le pays du don, dans un chatoiement d'or. Ils touchèrent ses rivages et montèrent dans une belle et fertile contrée, et ils se réjouirent. Et ils la nommèrent Elena, ce qui signifie « vers l'étoile », mais aussi Anadouné, c'est-à-dire l'occidental, Numenoré, en haut Eldarin. Ce furent les débuts de ce peuple qui, dans la langue gris-elfique, porte le nom de Dunedain, les Numenoréens, rois parmi les hommes. Mais il n'était pas pour autant affranchi de la mort qu'Iluvatar avait destinée à toute l'humanité, et il restait mortel, même s'il vivait une longue existence, et ne connaissait pas la maladie avant que l'ombre les fît déchoir. Ils gagnèrent donc en sagesse et en magnificence, et devinrent en tout plus semblables au premier-né qu'aucun autre peuple des hommes. Et ils étaient grands, plus grands en vérité que les plus grands des fils de la terre du milieu. Et l'éclat de leurs yeux était celui des claires étoiles. Mais leur nombre ne croissait que lentement dans le pays, car s'ils naissaient d'eux des filles et des fils, plus beaux que ne l'était leur père, ils avaient peu d'enfants. La plus grande cité de Numenor s'élevait jadis au milieu de ses côtes occidentales, et ce havre s'appelait Andounié, car il regardait sur le couchant. Mais au cœur des terres se dressait une montagne haute et escarpée, que l'on appelait le Meneltarma, le pilier des cieux. Et tout en haut se trouvait un lieu saint consacré à Eru Iluvatar, sans toit ni mur. Et aucun autre temple ni sanctuaire ne s'élevait au pays des Numenoréens. Au pied de la montagne étaient érigés les tombeaux des rois, et sur une colline voisine se trouvait Armenelos, la plus belle des villes. Et c'est là que se dressaient la tour et la citadelle édifiée par Elros, fils des Arendil, que les Valar choisirent comme premier roi des Dunedain. Or, Elros et Elrond, son frère, descendaient des trois maisons des Edain, mais aussi à la fois des Eldar et des Maiar, car Idril de Gondolin et Lúthien, fille de Melian, étaient leurs aïeuls. Et si les Valar ne peuvent en effet retirer le don de la mort que les hommes doivent à Iluvatar, pour ce qui est des semi-elfes, Iluvatar les laissa juges. Et ils jugèrent que les fils des Arendil devaient pouvoir choisir eux-mêmes leur destinée. Et Elrond choisit de demeurer parmi les premiers-nés, et il lui fut donné de vivre comme eux. Mais à Elros, qui choisit de devenir un roi des hommes, il fut néanmoins accordé un grand nombre d'années, maintes fois celui des hommes de la terre du milieu. Et toute sa descendance, souverain et seigneur de la maison royale, devait jouir d'une exceptionnelle longévité, même pour des Numenoréens. Mais Elros vécut 500 ans et régna pendant 410 années. Les années passèrent, et tandis que la terre du milieu retournait à la nuit, où lumière et sagesse faisaient défaut, les Dunedain vivaient sous la protection des Valar et dans l'amitié des Eldar, et ils grandirent en stature aussi bien de corps que d'esprit. Car si ces gens continuaient d'employer leur parler ancestral, leurs seigneurs et rois parlaient aussi la langue des elfes apprise au temps de leurs alliances, et partant, s'entretenaient encore avec les Eldar, qu'ils fussent d'Eressëa ou de l'ouest de la terre du milieu. Et leurs maîtres en tradition apprirent aussi le haut Eldarin, la langue du royaume béni, dans laquelle nombre de chants et d'histoires avaient été transmis depuis le commencement du monde. Et ils écrivirent des lettres, des rôles et des livres, où ils consignèrent quantité de choses sages et merveilleuses à l'apogée de leur royaume, dont il ne reste plus aucun souvenir. Et c'est pourquoi, en plus de leurs noms ordinaires, tous les seigneurs des Nouménoréens portaient également des noms Eldarins, ce qui valait aussi pour les cités et les lieux enchanteurs qu'ils fondèrent à Nouménor et sur les rivages des terres citérieures. Car les Dunedain devinrent de grands artisans, à tel point que s'ils l'avaient voulu, ils eussent aisément surpassé les rois malfaisants de la terre du milieu dans l'art de la guerre et la fabrication des armes. Mais ils étaient désormais des hommes de paix. De tous les arts, ils cultivaient au premier chef la construction de navires et la navigation, et ils devinrent des marins comme on n'en verra jamais plus, dès lors que le monde fut diminué. Et voyager sur les vastes mers était l'exploit le plus relevé et l'aventure de prédilection de leurs plus vaillants hommes durant leur intrépide jeunesse. Mais les seigneurs du Valinor leur interdisaient de naviguer si loin vers l'ouest que les côtes de Nouménor ne se pouvaient plus voir. Et pendant longtemps, les Dunedain s'en accommodèrent sans bien comprendre toutefois les raisons de cet interdit. Mais Manwë entendait ainsi les préserver de la tentation d'aller en quête du royaume béni et d'outrepasser les limites imposées à leur bonheur en s'éprenant de l'immortalité des Valar et des Eldar et du pays où rien ne meurt jamais. Car en ce temps-là, le Valinor était encore du monde visible, et Ilúvatar permettait aux Valar d'y tenir résidence sur terre en mémoire de ce qui eût été si Morgoth n'eût jeté son ombre sur le monde. Les Nouménoréens le savaient fort bien, et il leur arrivait parfois d'entrevoir à l'horizon, quand l'air était limpide et le soleil encore à l'est, un lointain rivage et une cité blanche et éclatante, avec un port et une tour. Car en ce temps-là, les Nouménoréens avaient la vue longue, et du reste seuls les regards les plus acérés avaient droit à cette vision, du haut du Meneltarma, peut-être, ou de quelques grands navires mouillant au large de leurs côtes occidentales, aussi loin qu'il leur était permis d'aller. Car ils n'osaient contrevenir à l'interdit des seigneurs de l'Ouest. Or, les plus sages d'entre eux savaient que ce lointain rivage n'était pas, en vérité, le royaume béni du Valinor, mais Avalonné, le havre des Eldar dans Eressëa, la plus orientale des terres immortelles. Et de là, il arrivait encore que les premiers-nés fissent voile jusqu'à Nouménor dans des bateaux sans rames, comme des oiseaux blancs échappés du couchant. Et ils apportaient à Nouménor quantité de présents, des oiseaux chanteurs et des fleurs odorantes et des herbes aux multiples vertus. Et ils leur donnèrent une pousse de Celeborn, l'arbre blanc planté au cœur d'Eressëa, lequel était un rejeton de Galathilion, l'arbre de Tuna, l'image de Telperion que Yavanna avait offerte aux Eldar dans le royaume béni. Et l'arbre grandit et prospéra dans la cour du roi à Armenelos. Nimloth était son nom, et il fleurissait le soir venu et embaumait les ombres nocturnes de son parfum. Ainsi donc, à cause de l'interdit des Valar, les voyages de Dunedain les emmenaient toujours vers l'est et non vers l'ouest, des ténèbres du nord aux chaleurs du sud, et par-delà le sud jusqu'aux ténèbres d'en bas. Et ils allèrent même sur les mers intérieures et contournèrent la terre du milieu, jusqu'à ce que, depuis leur haute proue, ils entrevissent les portes du matin dans l'est. Et les Dunedain approchaient parfois les rivages des grandes terres, regrettant cette vision de la terre du milieu vouée à l'abandon. Et les seigneurs de Nouménor foulèrent de nouveau ces côtes occidentales durant les années sombres des hommes, et pour lors, nul n'osa s'opposer à eux. Car la plupart des hommes de ce temps, qui vivaient sous le poids de l'ombre, étaient devenus faibles et craintifs. Et les Nouménoréens vinrent parmi eux et leur prodiguèrent maints enseignements. Ils leur apportèrent le blé et le vin, et ils apprirent aux hommes à planter les semences et à moudre le grain, à tailler le bois et la pierre, ainsi qu'à ordonner leur vie comme ils le pouvaient, dans ces terres où la mort était prompte et le bonheur trop rare. Alors les hommes de la terre du milieu reprirent courage, et les forêts inhabitables reculèrent çà et là sur les côtes occidentales, et les hommes secouèrent le joug des engeances de Morgoth et oublièrent leur hantise des ténèbres. Et ils révéraient le souvenir des grands rois de la mer, et quand ils furent partis, ils les appelèrent des dieux, espérant leur retour. Car en ce temps-là, les Nouménoréens ne restaient jamais longtemps en terre du milieu, et ils n'y construisaient pas encore d'habitation. Il leur fallait voguer vers l'est, mais leur cœur les rappelait toujours à l'ouest. Or, ce penchant ne cessait d'augmenter avec les années, et les Nouménoréens se mirent à convoiter la cité immortelle qu'ils entrevoyaient de loin, et le désir de la vie éternelle, l'envie d'échapper à la mort et à la fin des plaisirs, se firent de plus en plus pressants chez eux. Et cependant qu'ils gagnaient en puissance et en gloire, leurs troubles grandissaient à proportion. Car si les Valar leur avaient consenti une longue existence, ils ne pouvaient soustraire les Dunedain à la lassitude du monde qui un jour accable. Et ils mouraient. Même leur roi de la lignée des Arendil et l'empant de leur vie étaient brefs aux yeux des Eldar. C'est ainsi qu'une ombre descendit sur eux, en quoi la volonté de Morgoth qui agitait encore le monde était peut-être à l'œuvre. Et les Nouménoréens se mirent à murmurer, d'abord en leur cœur, puis ouvertement, contre le destin des hommes, et surtout contre l'interdit qui leur défendait de naviguer dans l'Ouest. Et ils disaient entre eux, « Pourquoi les seigneurs de l'Ouest sont-ils assis en paix dans un bonheur sans fin, alors qu'il nous faut mourir pour aller on ne sait où, laisser notre maison et tout ce que nous avons bâti ? Et les Eldar ne meurent point, même ceux qui se sont révoltés contre les seigneurs. Et comme nous maîtrisons tous les océans, et qu'il n'est d'eau si vaste ou si agitée que nos navires ne la puissent passer, pourquoi n'irions-nous pas à Avalonné pour y saluer nos amis ?» Et il s'en trouvait pour ajouter, « Pourquoi ne pas aller jusqu'en Aman et goûter, ne serait-ce qu'un jour, le bonheur des puissances ? Ne sommes-nous pas désormais parmi les grands peuples d'Arda ?» Les Eldar rapportèrent ces paroles aux Valar, et Manwë s'en attrista, voyant les nuages s'amonceler sur Nouménor à son zénith. Et il envoya des messagers aux Dunedain qui parlèrent gravement au roi et à tous ceux qui voulaient entendre du sort et de l'ordonnance du monde. « Le destin du monde, dirent-ils, un seul peut le changer, lui qui l'a fait. Et seriez-vous à même de voyager en évitant tous les pièges et tous les mirages, et ainsi d'atteindre Aman, le royaume béni, que vous y gagneriez bien peu de choses. Car ce n'est pas la terre de Manwë qui confère l'immortalité à ses habitants, mais les immortels qui y vivent l'ont sanctifiée. Et là-bas, vous ne feriez que vous lasser et vous faner d'autant plus tôt comme des phalènes dans une lumière trop vive et trop longtemps soutenue. » Mais le roi dit, « Et mon aïeul, et Arendil, ne vit-il pas ? N'est-il pas dans le pays d'Aman ?» Ce à quoi ils répondirent, « Vous savez que son sort est à part, et qu'il fut adjugé au premier-né qui ne meurt point, mais sa destinée veut aussi qu'il ne puisse jamais plus retourner dans les terres mortelles. Or, vous et vos semblables ne faites pas partie des premiers-nés. Vous êtes des hommes mortels, ainsi qu'Ilúvatar vous a créés. Toutefois, il semble à présent que vous réclamiez pour vous la meilleure part des deux peuples, vous rendre en Valinor quand vous le souhaitez, et rentrer chez vous quand bon vous semble. Cela ne peut se faire, non plus que les Valar ne peuvent reprendre les dons d'Ilúvatar. Les Eldar, dites-vous, restent impunis, et même ceux qui se sont rebellés ne meurent point. Or, ce n'est là pour eux ni récompense ni châtiment, mais l'accomplissement de leur être. Ils ne peuvent s'échapper, mais sont liés au monde, et ne peuvent le quitter tant qu'il dure, car sa vie est la leur. Et vous êtes punis pour la rébellion des hommes, dites-vous, n'y ayant eu que peu de part, et partant vous mourrez. Mais cela n'a pas été donné en manière de châtiment. Ainsi vous vous échappez, vous quittez ce monde et n'y êtes pas lié, avec espoir ou lassitude. Qui donc, dans ce cas, devrait envier l'autre ? Et les Nouménoréens répondirent, « Pourquoi n'envierions-nous pas les Valar, ou même les plus humbles des immortels ? Car on nous demande une confiance aveugle, pour un espoir sans garantie, car nous ne savons pas ce qui nous attend dans un court moment. De plus, nous aimons la terre, et voudrions ne pas la perdre. » Alors les messagers dirent, « Certes, les Valar ne connaissent pas la pensée d'Ilúvatar en ce qui vous concerne, et il n'a pas révélé tout ce qui est à venir. Mais nous tenons ceci pour vrai, que votre demeure n'est pas ici, ni dans le pays d'Aman, et nulle part au-dedans des cercles du monde. Et le destin des hommes qui les appellent à partir était à l'origine un don d'Ilúvatar. Ce devint un tourment pour eux, dès lors qu'ils tombèrent sous l'ombre de Morgoth. Et pour cette seule raison, parce qu'ils se croyaient entourés de ténèbres dont ils avaient grand peur. et certains s'entêtèrent et se gonflèrent d'orgueil au point de ne vouloir céder jusqu'à ce que la vie leur fût arrachée. Nous qui subissons le fait toujours croissant des années, ne voyons pas clairement comment cela se fait. Mais si cette question revient vous tourmenter, comme vous le dites, c'est que l'ombre s'est de nouveau levée pour assombrir vos cœurs. Telle est notre crainte. C'est pourquoi, bien que vous soyez les Dunedain, les plus beaux des hommes qui n'ont point succombé à l'ombre de jadis et l'ont vaillamment combattu, nous vous disons, prenez garde. La volonté d'Eru ne saurait être contestée. Et les Valar vous engagent vivement à ne point renier la confiance à laquelle vous êtes sollicité, de crainte que bientôt elle ne redevienne l'entrave qui vous retient. Espérez plutôt que, à la fin, le moindre de vos désirs sera exaucé. L'amour d'Alda fut placé en vos cœurs par Ilúvatar, et il ne s'aime pas sans raison. Toutefois, maints âges pourraient se succéder, et maintes générations d'hommes encore à naître avant que ces raisons soient connues, et c'est à vous qu'elles seront révélées, et non aux Valar. Cela se passait au temps de Tar-Kiliatan, le constructeur de navires, et de Tar-Atanamir, son fils. Et c'étaient des hommes fiers et avides de richesses. Et ils levaient tribut sur les hommes de la terre du milieu, prenant désormais plus tôt qu'ils ne donnaient. C'est devant Tar-Atanamir, le 13e roi, que vinrent les messagers. Et de son temps, le royaume de Numenor se maintenait depuis plus de 2000 ans, parvenu au zénith de sa félicité, sinon de sa puissance. Or, le conseil des messagers ne plut guère à Atanamir, qui en fit peu de cas. Et la plupart de ses gens suivirent son exemple, car ils souhaitaient encore échapper à la mort sans attendre, et non sans remettre à l'espoir. Et Atanamir vécut très vieux, s'accrochant à la vie après en avoir perdu toute jouissance. Et il fut le premier des Numenoréens à agir de la sorte, refusant de partir que la vigueur et la raison ne l'eussent abandonné, refusant même le trône à son fils, alors dans la force de l'âge. Car du fait de leur longue existence, les seigneurs de Numenor avaient coutume de se marier tard, et de laisser le sceptre à leur héritier lorsque celui-ci venait à pleine maturité du corps et de l'esprit. Enfin, Tar-Ankalimon, fils d'Atanamir, succéda à son père, dont il partageait les avis, et sous son règne, les gens de Numenor furent divisés. Il y avait d'un côté le parti le plus nombreux, ceux qu'on appelait les hommes du roi, orgueilleux et désormais hostile aux Eldar et aux Valar, et de l'autre, les moins nombreux, surnommés les Elendili, les amis des elfes. Car ces derniers, s'ils demeuraient fidèles au roi et à la maison d'Elros, désiraient conserver l'amitié des Eldar et se conformaient à l'édit des seigneurs de l'Ouest. Et pourtant, même ceux-là qui se donnaient le nom de fidèles n'échappaient pas entièrement au mal qui affligeait leurs semblables, et l'idée de la mort les tourmentait. Aussi, la félicité de l'Occidental commença-t-elle à décliner, cependant que le royaume gagnait en splendeur et en puissance. Car pour lors, les rois et leurs sujets n'abandonnaient pas la sagesse, et s'ils n'aimaient plus les Valar, au moins les craignaient-ils encore. Ils n'osaient enfreindre ouvertement l'interdit ou naviguer au-delà des limites imposées. Leurs grands navires faisaient toujours cap à l'est. Mais la peur de la mort ne cessait de les assombrir davantage, mort qu'ils cherchaient par tous les moyens à retarder. Et ils commencèrent d'édifier de grandes maisons à leur mort, pendant que leurs sages travaillaient sans relâche à découvrir le secret qui permettrait de redonner la vie aux hommes, ou à tout le moins, de prolonger leurs jours. Or, ils ne parvinrent qu'à préserver intacte la chair morte des hommes, et ils parsemèrent le pays de tombes silencieuses, où l'idée de la mort était enchâssée dans les ténèbres. Mais les vivants se livraient avec d'autant plus d'ardeur aux plaisirs et aux festivités, toujours plus avides de biens et de richesses. Et après le règne de Tar-Ankalimon, on eut coutume de négliger l'offrande des premiers fruits à Eru, et on alla plus que rarement au sanctuaire sur les hauteurs de Meneltarma, au centre du pays. Ainsi se fit-il qu'en ce temps-là, les Numenoréens commencèrent d'établir de grandes colonies sur les côtes occidentales des anciennes contrées. Car il leur semblait que leur propre terre s'était rétrécie, et ils n'y trouvaient ni repos ni contentement, désirant l'empire et les richesses de la terre du milieu, puisque l'ouest leur était refusé. Ils bâtirent de grands ports et de fortes tours, et nombre d'entre eux s'y établirent. Mais ils se comportaient désormais en seigneurs et maîtres, plus prompts à commander et à lever le tribut qu'à aider et à enseigner. Et les grands navires des Nouménoréens faisaient voile vers l'est et en revenaient toujours chargés. Et les rois gagnaient en majesté et en puissance, et ils buvaient et festoyaient et se vêtaient d'argent et d'or. Les amis des elfes eurent peu de part à tout cela. Eux seuls naviguaient encore vers le nord et le pays de Gil-galad, entretenant leur amitié avec les elfes et leur prêtant assistance contre Sauron. Et leur havre se trouvait à Pelargir, au-dessus des bouches du grand fleuve Anduin. Mais les hommes du roi voguaient loin dans le sud, et les légendes des hommes conservent la rumeur des seigneuries et places fortes qu'ils y établirent. Durant cet âge, comme il est raconté ailleurs, Sauron ressurgit en terre du milieu et prospéra. Et il se tourna de nouveau vers le mal, au sein duquel Morgoth l'avait élevé et exalté. Déjà à l'époque de Tar-Minastir, 11e roi de Númenor, il avait fortifié le pays de Mordor et y avait édifié la tour de Barad-dûr. Et dès lors, il s'efforça d'assurer son empire sur la terre du milieu afin de devenir le roi des rois et un dieu pour les hommes. Et Sauron haïssait les Númenoréens en raison des exploits de leur père, de leur alliance ancienne avec les elfes et de leur allégeance aux Valar. Et il n'oubliait pas l'aide que Tar-Minastir avait jadis accordée à Gil-galad quand l'anneau unique avait été forgé, du temps où Sauron faisait la guerre aux elfes de l'Eriador. Or, voici qu'il apprenait à quelle puissance et à quelle gloire les rois de Númenor avaient atteint. Et il les haït d'autant plus. Et il les redoutait, craignant qu'ils n'envahissent ses terres et ne lui ravissent la maîtrise de l'Est. Mais pendant longtemps, il n'osa pas défier les seigneurs de la mer et se retira des côtes. Or Sauron fut toujours plein de ruses, et l'on dit que parmi ceux qu'il piégea à l'aide des neuf anneaux se trouvaient trois grands seigneurs de descendance Númenoréenne. Et quand surgirent les Ulairi, c'est-à-dire les spectres de l'anneau, ses serviteurs, et que dès lors son règne de terreur et son emprise sur les hommes furent à leur paroxysme, il commença d'assaillir les places fortes des Númenoréens sur les rivages de la mer. En ce temps-là, l'ombre qui planait sur Númenor s'épaissit, et la vie des rois de la maison d'Elros déclina du fait de leur rébellion. Mais leurs cœurs se durcirent d'autant plus contre les Valar. Le 20e roi prit le sceptre de ses pères, et il monta sur le trône sous le nom d'Adunakor, le seigneur de l'Ouest, abandonnant l'usage des langues elfes qui furent interdites en sa présence. Dans le rôle des rois, le nom de Eru-Númen fut pourtant inscrit dans le parler haut elfique, déférant à l'ancienne coutume avec laquelle les rois n'osaient rompre complètement de crainte que malheur n'arrive. Or, ce titre semblait par trop orgueilleux aux yeux des fidèles, étant celui des Valar, et ils avaient leur cœur déchiré entre leur loyauté vis-à-vis de la maison d'Elros et leur révérence des puissances instituées. Mais le pire restait à venir. Car Ar-Ghimilzor, le 23e roi, fut le plus grand ennemi des fidèles. Sous son règne, l'arbre blanc, laissé à l'abandon, se mit à dépérir. Et il interdit entièrement l'usage des langues elfiques et punit ceux qui y accueillaient les navires des Ressea, lesquels venaient encore en secret sur les rivages occidentaux du pays. Or, les Elendili vivaient principalement dans l'ouest de Númenor. Mais Ar-Ghimilzor ordonna que tous ceux à qui l'on découvrirait cette allégeance fussent déportés dans l'est et placés sous surveillance. Ainsi se fit-il qu'une majorité de fidèles demeurèrent par la suite près du port de Roména. De là, nombre d'entre eux mirent le cap sur la terre du milieu et les rivages du nord, où ils pouvaient encore s'entretenir avec les Eldar du royaume de Gil-galad. Les rois n'étaient pas sans le savoir, mais ne faisaient rien pour l'empêcher, du moment que les Elendili quittaient leur pays pour ne plus revenir, car ils désiraient mettre un terme à toute amitié entre leur peuple et les Eldar des Ressea, qu'ils appelaient les espions des Valar, espérant sceller leurs actions et leurs conseils à la vue des Valar. Mais Manwë savait tout ce qu'il faisait, et les Valar se courroucèrent contre les rois de Númenor et ne leur accordèrent plus ni conseils ni protection. Les navires des Ressea ne vinrent jamais plus du couchant, et les havres d'Andounié furent désertés. La maison la plus honorée, après celle des rois, était celle des seigneurs d'Andounié, car ils étaient descendants d'Elros par Silmarien, fille de Tar-Elendil, quatrième roi de Nouménor. Et ces seigneurs restaient fidèles au roi et les révéraient. Du reste, les seigneurs d'Andounié furent toujours de proches conseillers du sceptre. Par ailleurs, ils avaient toujours eu une affection particulière pour les Eldar et une grande révérence pour les Valar. Et quand l'ombre commença de s'étendre, ils aidèrent les fidèles comme ils le purent. Mais pendant longtemps, ils ne se déclarèrent pas ouvertement, cherchant plutôt à insuffler de plus sages conseils dans le cœur des seigneurs du sceptre. Il y avait une dame, Inzilbeth, connue pour sa beauté, et sa mère était Lindorié, sœur d'Earendur, le seigneur d'Andounié, au temps d'Arsakalthor, père d'Argimilzor. Gimilzor la prit pour épouse, et ce, bien malgré elle, car ayant été élevée par sa mère, elle était de tout cœur avec les fidèles. Mais tel était à présent l'orgueil des rois et de leurs fils, que l'on ne pouvait s'opposer à leurs désirs. S'il n'y eut aucun amour entre Argimilzor et sa reine, il n'y en eut pas non plus entre ses fils. Inziladun, l'aîné, ressemblait en tout à sa mère, de corps comme d'esprit. Mais Gimilcad, le puîné, était conforme à son père, sinon plus fier et plus obstiné encore. Argimilzor lui eut remis le sceptre plutôt qu'à son aîné, si la loi l'avait permis. Mais quand Inziladun accéda au sceptre, il restaura l'ancien usage et prit un titre dans la langue elfique, se nommant Tar-Palantir, car il avait la vue et l'esprit clairvoyant, et même ceux qui le haïssaient craignaient ses paroles comme celles d'un devin. De son temps, il apporta la paix aux fidèles, et il reprit les visites au sanctuaire d'Eru sur le Meneltarma, selon les observances délaissées par Argimilzor. À l'arbre blanc, il prodigua les soins et les honneurs comme autrefois, et il fit cette prophétie que lorsque l'arbre périrait, la lignée des rois viendrait aussi à s'éteindre. Mais son repentir arrivait trop tard pour apaiser la colère des Valar contre l'insolence de ses pères, et la plupart des siens restaient impénitents. Or Gimilcad était fort et indélicat, et ayant pris la tête de ces hommes du roi de Naguère, il s'opposa à la volonté de son frère aussi ouvertement qu'il l'osa, et plus encore en secret. Tar-Palantir vit ainsi ses jours assombris par la tristesse, et il passait une grande part de son temps dans l'ouest, où il avait coutume de monter à l'antique tour du roi Minas Tirith, sur la colline d'Oromet, près d'Andounié, d'où il regardait vers l'ouest avec nostalgie, espérant peut-être apercevoir quelques voiles sur la mer. Mais aucun navire de l'ouest ne venait plus jamais à Nouménor, et Avalonné était enveloppé de nuages. Or, Gimilcad mourut 2 ans avant d'atteindre sa 200e année, une mort jugée prématurée pour un descendant de la lignée d'Elros, même en son déclin. Mais sa mort n'apaisa pas le roi. Car Pharazôn, fils de Gimilcad, était un homme plus bouillant encore que son père, et encore plus avide de pouvoir et de richesse. Il était souvent parti en campagne en tant que chef de guerre dans les combats que menaient à présent les Nouménoréens sur les régions côtières de la Terre du Milieu, afin d'étendre leur empire sur les hommes. Et ses exploits en firent un capitaine de renom, sur terre comme sur mer. Ainsi donc, lorsqu'il revint à Nouménor et apprit la mort de son père, le cœur du peuple lui fut tout acquis, car il rapportait de grandes richesses qu'il répandait pour l'or avec munificence. Et il vint un jour où Tar-Palantir se lassa de ses peines et fut emporté. Il n'avait aucun fils, seulement une fille, qu'il avait nommée Myriel dans la langue elfique. Et voici que, selon la loi des Nouménoréens, le sceptre lui revenait de droit. Mais Pharazôn l'a pris pour épouse à son corps défendant, une ignominie en soi, mais aussi en ce que les lois de Nouménor, même dans la maison royale, ne permettaient pas le mariage entre cousins immédiats, c'est-à-dire en deçà des cousins issus de Germains. Et lorsqu'ils furent mariés, il s'empara du sceptre et prit le titre d'Ar-Pharazôn, Tar-Kalion, en langue elfique. Et il changea le nom de sa reine pour Ar-Zimrafel. Alpharazon le Doré fut, de tous ceux qui avaient tenu le sceptre des rois de la mer depuis la fondation de Numénor, le plus puissant et le plus orgueilleux. Et 24 rois et reines avaient alors régné sur Numénor et dormaient dans des caveaux, sous le mont de Meneltarma, allongés sur leur couche d'or. Et assis sur son trône richement sculpté dans la cité d'Arménélos, dans sa splendeur et sa toute-puissance, il remuait de noires pensées, méditant la guerre. Car il avait découvert, lors de ses voyages en terre du milieu, la force du royaume de Sauron et sa haine de l'occidental. Et voici que des maîtres de navires et des capitaines se présentaient devant lui à leur retour de l'Est et rapportaient que depuis le départ d'Alpharazon, de la terre du milieu, Sauron faisait montre de sa puissance et resserrait son étreinte sur les villes côtières. Et s'étant proclamé le roi des hommes, il avait déclaré son intention de refouler les Numénoréens dans la mer, voire de détruire Numénor, si faire se pouvait. Alpharazon fut courroucé d'apprendre ces nouvelles, et tandis que se prolongeaient ses secrètes réflexions, son cœur ambitionna un pouvoir sans bornes et la primauté absolue de sa volonté. Et il décida, sans interroger le conseil des Valar, ni la sagesse de quiconque hormis la sienne, de réclamer lui-même le titre de roi des hommes et de contraindre Sauron à devenir son vassal et son serviteur. Car dans son orgueil, il prétendait qu'aucun roi ne devait s'élever si haut qu'il puisse rivaliser avec l'héritier d'Earendil. C'est ainsi qu'il entreprit de se constituer une grande réserve d'armes, et il bâtit en ce temps-là de nombreux navires de guerre qu'il chargea de tout son armement. Et lorsque tout fut prêt, il mit lui-même le cap sur l'Est avec son armée. Et les hommes virent ses voiles surgir du couchant, teintées d'écarlate, jetant des reflets d'or et de rouge. Et la peur s'empara des habitants des côtes qui s'enfuirent au loin. Mais la flotte arriva enfin en ce lieu que l'on nommait Umbar, où se trouvait le grand havre des Numénoréens, qui n'était l'œuvre d'aucun homme. Le silence et le vide régnaient sur les terres alentour quand le roi de la mer s'avança en terre du milieu. 7 jours durant, il marcha avec bannière et trompette, et il arriva à une colline et la gravit, et il y installa son pavillon et son trône. Et il siégea au milieu des terres, les tentes de son armée rangées autour de lui, bleues, or et blanc, comme de grandes fleurs dans une prairie. Il dépêcha alors des héros et ordonna à Sauron de se présenter devant lui pour lui jurer fidélité. Et Sauron vint. De sa grande tour de Barad-dûr, il vint, sans même offrir le combat. Car la puissance et la majesté des rois de la mer, comme il le constatait, surpassaient toutes les rumeurs. Il ne pouvait espérer que même ses plus grands serviteurs leur résisteraient, pas plus qu'il ne sentait l'heure venue d'imposer sa volonté au Dunedain. Et il était retors, à même d'obtenir ce qu'il voulait par la ruse, quand la force ne suffisait pas. C'est pourquoi il s'humilia devant Alpharazon et adoucit sa langue. Et les hommes s'étonnèrent, car toutes ses paroles étaient sages et justes. Mais pour l'heure, Alpharazon n'était pas dupe, et il se dit que pour mieux assurer la garde de Sauron et de ses serments de féauté, il fallait l'emmener à Numénor, afin qu'il y demeure en tant qu'otage pour lui-même et pour tous ses serviteurs en terre du milieu. Sauron fit mine de consentir sous la contrainte, quoiqu'en son fort intérieur, cette proposition le réjouit, car elle répondait en tout à son désir. Et Sauron traversa la mer, et il contempla le pays de Numénor et la cité d'Arménélos au faîte de sa gloire et resta stupéfait. Mais l'envie et la haine affluèrent d'autant plus vivement en son cœur. Néanmoins, sa langue et son esprit étaient si rusés, sa volonté si forte et si sournoise, qu'avant 3 ans, il était dans la confidence la plus intime des conseils secrets du roi. Car le miel de la flatterie était toujours sur ses lèvres, et il avait connaissance de maintes choses n'ayant pas été révélées aux hommes. Et voyant toute la considération dont il jouissait auprès de leur seigneur, tous les conseillers se mirent à l'encenser, hormis un seul, Amandil, seigneur d'Andunier. Lentement, un changement s'opéra dans le pays, et les cœurs des amis des elfes furent gravement troublés. La peur en fit fuir un grand nombre, et ceux qui restaient, s'ils continuaient de s'appeler fidèles, étaient qualifiés de rebelles par leurs ennemis. Car dès lors qu'il avait l'oreille des hommes, Sauron ne ménageait aucun argument pour démentir les enseignements des Valar, et il les priait de croire qu'il y avait dans le monde à l'est et même à l'ouest encore beaucoup de terres et d'océans à conquérir, où les attendaient d'innombrables richesses. Plus encore, s'ils arrivaient enfin au bout de ces terres et océans, au-delà se trouvaient les ténèbres anciennes. Et le monde fut créé à partir de celles-ci, car seules les ténèbres sont dignes d'adoration, et leur Seigneur pourrait faire d'autres mondes encore, qu'il offrira à ceux qui le servent, si bien que leur ascension ne connaîtra jamais de fin. Et Alphalazon demanda, « Qui est le Seigneur des ténèbres ?» Alors Sauron s'adressa au roi derrière porte close, et il lui mentit, disant, « C'est celui dont le nom n'est plus prononcé, car les Valar vous ont trompé à son propos, évoquant le nom d'Eru, un fantôme qu'ils ont inventé dans leur délire, cherchant à retenir les hommes sous leur servitude. Car ils sont les oracles de cet Eru qui ne dit jamais que ce qu'ils veulent. Mais leur véritable maître l'emportera et vous délivrera de ce fantôme. Et son nom est Melkor, le seigneur de tout, le libérateur, et il vous rendra plus fort qu'eux. » Alors le roi Alpharazon retourna à l'adoration des ténèbres et à celle de Melkor, seigneur d'Issel, d'abord secrètement et avant peu de manière ouverte, au vu et au su de ses sujets. Et la plupart d'entre eux le suivirent. Il restait encore néanmoins, comme on l'a dit, un dernier groupe de fidèles à Roména et dans les environs, en plus de quelques autres disséminés ici et là dans le pays. Les plus éminents d'entre eux, sur qui ils se reposaient pour leur gouverne et pour garder courage en ces jours terribles, étaient Amandil, conseiller du roi, et son fils Elendil, le père d'Isildur et d'Anarion, qui, pour des hommes de Númenor, étaient encore de jeunes gens. Amandil et Elendil étaient de grands capitaines de navires, de la lignée d'Elros Tar Minyatur, mais non de la maison régnante, dépositaire de la couronne et du trône dans la cité d'Armenelos. Durant leurs jeunes années, Falazon avait eu de l'affection pour Amandil, qui, bien qu'il fût un ami des elfes, demeura parmi ses conseillers jusqu'à la venue de Sauron. Après quoi, il fut chassé, car Sauron le haïssait plus que tout autre homme à Númenor. Mais il était si noble, et il avait été un si grand capitaine de vaisseau, que beaucoup le tenaient encore en honneur. Et pour lors, ni le roi ni Sauron n'osèrent porter la main sur lui. Ainsi donc Amandil se retira à Roména, et il appela tous ceux qu'il savait encore fidèles à s'y rendre en secret, car rien ne semblait plus faire obstacle au mal, et il craignait pour tous les amis des elfes. Or, ses craintes furent bientôt avérées. Car en ce temps-là, le Meneltarma fut entièrement déserté, et bien que Sauron lui-même n'eût osé profaner ce sanctuaire, le roi ne permettait à quiconque d'y monter sous peine de mort, pas même aux fidèles qui gardaient Ilúvatar dans leur cœur. Et Sauron pressait le roi d'abattre l'arbre blanc, Nimloth le beau, qui poussait dedans son enceinte, car celui-ci évoquait le souvenir des Eldar et de la lumière du Valinor. Le roi s'y refusa au début, convaincu que la fortune de sa maison était liée à l'arbre, comme l'avait prédit Tar-Palantir. Car voici que dans sa folie, celui qui haïssait les Eldar et les Valar s'accrochait vainement au spectre de l'ancienne allégeance de Númenor. Mais quand Amandil eut vent du funeste dessein de Sauron, il fut touché au cœur, sûr que Sauron finirait par avoir gain de cause. Alors il alla trouver Elendil et les fils d'Elendil, et il leur conta l'histoire des arbres du Valinor. Et Isildur ne dit mot, mais il s'enfuit dans la nuit et accomplit un exploit qui devait le rendre célèbre. Car il alla seul à Armenelos et entra déguisé à la cour du roi, désormais interdite aux fidèles. Et il se rendit jusqu'à l'arbre, ce qui était défendu à tous, sur l'ordre de Sauron, qui le faisait surveiller jour et nuit par des sentinelles à sa solde. Pour l'heure, Nimloth était sans fleurs et sans éclat, car c'était la fin de l'automne et son hiver approchait. Et Isildur, esquivant les gardes, alla cueillir un fruit qui pendait à l'arbre et rebroussa chemin. Mais on le remarqua, et il dut se battre pour fuir ses assaillants, recevant plusieurs blessures. Et son déguisement fit en sorte que l'on ne put savoir qui s'était approché de l'arbre. Mais Isildur rentra à Roména de justesse, et il plaça le fruit entre les mains d'Amandil avant d'avoir épuisé ses forces. Le fruit fut alors planté en secret et béni par Amandil. Et il en sortit une pousse qui jaillit au printemps. Mais lorsque s'ouvrit sa première feuille, Isildur, longtemps demeuré alité et au seuil de la mort, se releva sans plus être inquiété par ses blessures. L'exploit d'Isildur n'arrivait pas trop tôt, car après cet incident, le roi céda à la prière de Sauron, fit abattre l'arbre blanc et renia alors entièrement l'allégeance de ses pères. Mais Sauron fit construire au cœur de la cité des Numénoréens, sur la colline d'Armenelos la Dorée, un immense temple. Sa base circulaire, au mur de 50 pieds d'épaisseur, faisait 500 pieds de largeur en passant par le centre, et ses murs, hauts de 500 pieds, étaient couronnés d'un grand dôme. Et ce dôme, tout recouvert d'argent, rutilait au soleil, de sorte que sa lumière se distinguait de loin. Mais son éclat s'assombrit bientôt, et l'argent devint noir. Car au milieu du temple se trouvait un autel surmonté d'un grand feu. Et tout en haut du dôme, une ouverture laissait échapper une épaisse fumée. Et sur l'autel, Sauron alluma le premier feu avec les branches coupées de Nimloth, qui se consumèrent en crépitant. Mais les hommes s'étonnèrent de voir l'ampleur des émanations, car un nuage flotta sur le pays pendant 7 jours, avant de dériver lentement vers l'ouest. Après quoi le feu et la fumée montèrent sans discontinuer, car le pouvoir de Sauron croissait chaque jour. Et entre les murs de ce temple, dans le sang, le tourment et la cruauté la plus abjecte, les hommes sacrifiaient à Melkor pour qu'il les délivrât de la mort. Et ils choisissaient le plus souvent leurs victimes parmi les fidèles, sans jamais les accuser ouvertement de ne pas adorer Melkor, le libérateur, mais sous prétexte qu'il haïssait le roi et lui était rebelle, ou qu'il conspirait contre leurs semblables avec renfort de mensonges et de poisons. La plupart du temps, ces accusations étaient fausses, mais c'étaient des jours funestes, et la haine engendre la haine. Pour autant, la mort ne quitta pas le pays. Elle vint même plus tôt et plus souvent, sous de nombreuses et sinistres formes. Car autant par le passé les hommes vieillissaient lentement, et à la fin se couchaient pour le repos enfin lassés du monde, autant ils étaient affligés à présent par la folie et par la maladie. Pourtant ils avaient peur de mourir et d'aller dans les ténèbres, royaume de celui qu'ils avaient pris pour seigneur, et dans leur douleur se maudissaient eux-mêmes. Et les hommes prenaient les armes et s'entretuaient pour peu de choses, car ils étaient désormais prompts à la colère, et Sauron, ou ceux qui s'étaient assujettis, parcouraient le pays en semant la discorde, de sorte que chacun murmurait contre le roi et ses seigneurs, ou contre quiconque jouissait d'un bien que lui-même n'avait pas. Et les hommes de pouvoir assouvissaient de cruelles vengeances. Pendant longtemps, les Numénoréens furent néanmoins convaincus qu'ils prospéraient. Et s'ils ne vivaient pas plus heureux, ils devenaient plus forts, et leurs riches devenaient encore plus riches. Car avec l'aide de Sauron et grâce à ses conseils, ils multipliaient leurs possessions. Ils inventaient des machines et construisaient des navires toujours plus imposants. Et ils venaient désormais en force et tout armés en terre du milieu, non plus en donneurs d'offrandes, ni même en maîtres, mais en implacables guerriers. Et ils pourchassaient les hommes de la terre du milieu, les dépouillaient de leurs biens et les prenaient pour esclaves. Et ils les massacrèrent en nombre sur leurs autels. Car ils construisirent des temples et d'immenses tombes au sein de leurs forteresses en ce temps-là. Et les hommes les craignaient, et le souvenir des bons rois de l'ancien temps s'évanouit de la terre, noirci par d'innombrables récits d'épouvante. C'est ainsi qu'Alpharazon, roi du pays de l'étoile, devint le plus formidable tyran que le monde eût connu depuis le règne de Morgoth, encore que ce fût Sauron qui tira les ficelles de derrière le trône. Mais les années passaient, et le roi sentait l'ombre de la mort approcher, tandis qu'il avançait en âge. Et la peur et la rage le subjuguaient. L'heure méditée par Sauron, si longtemps attendue, était enfin venue. Et Sauron s'adressa au roi, lui disant combien il était puissant désormais et libre d'imposer sa volonté en toutes choses, n'étant soumis à aucun commandement ni interdit. Et il dit « Les Valar se sont emparés du pays où la mort n'existe pas, et ils vous mentent à ce sujet et le cachent du mieux qu'ils peuvent, par cupidité, et de crainte que les rois des hommes leur prennent le royaume immortel pour gouverner le monde à leur place. Et même si, à n'en point douter, le don de la vie éternelle n'est pas destiné à tous, mais uniquement à ceux qui en sont dignes, les puissants, les glorieux, les hommes de noble lignée, il est de la plus haute injustice que ce don qui lui est dû soit refusé au roi des rois, Ar-Pharazôn, le plus puissant des fils de la terre, qui n'a d'égal que Manoué et encore. Mais les grands rois n'admettent aucun refus, ils prennent leur dû. Lors, Ar-Pharazôn, grisé par ces paroles et marchant à l'ombre de la mort, car ses jours touchaient à leur fin, écouta Sauron. Et il commença de méditer en son cœur comment il pourrait faire la guerre aux Valar. Il mit longtemps à préparer ce dessein, et s'il s'abstenait d'en parler ouvertement, il ne pouvait le cacher à tout le monde. Et Amandil, quand il apprit les intentions du roi, fut consterné et pris d'une terrible crainte, car il savait que les hommes ne pouvaient vaincre les Valar à la guerre, et que le monde était voué à la ruine si cette guerre n'était pas empêchée. Il fit donc venir son fils Elendil, et lui dit « Sombres sont nos jours, et il n'y a pas d'espoir pour les hommes, car les fidèles sont peu nombreux. C'est pourquoi j'ai résolu de suivre le conseil pris autrefois par Elendil, notre aïeul, faire voile dans l'ouest, interdit ou non, et m'adresser aux Valar, à Manwë en personne, si faire se peut, et implorer son aide avant que tout soit perdu. » « Entendez-vous donc trahir le roi ?» dit Elendil, « car vous savez bien ce dont il nous accuse, d'être des traîtres et des espions, et jusqu'à maintenant cela a toujours été faux. » « Si je croyais que Manwë avait besoin d'un tel messager, » dit Amandil, « je trahirais le roi, car il n'est qu'une seule loyauté dont le cœur d'un homme ne puisse s'affranchir en aucun cas. Mais c'est la pitié pour les hommes et leur délivrance de Sauron l'imposteur que j'implorerais de Manwë, puisque nous sommes quelques-uns à lui être fidèles. Quant à l'interdit, plutôt en subir moi-même la sanction que de voir tous les miens être tenus coupables. Mais que croyez-vous qui puisse arriver, vous, mon père, à ceux de votre maison que vous laissez ici, quand votre entreprise sera connue ? Elle ne doit pas l'être, dit Amandil. Mon expédition sera ourdie en secret, et je ferai voile vers l'est, comme ces navires qui partent chaque jour de nos havres. Puis, selon que les vents et la chance le permettent, je me détournerai, par le nord ou par le sud, et je remettrai cap à l'ouest pour trouver ce que je dois trouver. Mais pour toi et les tiens, mon fils, je vous conseille d'apprêter d'autres navires et de mettre à bord tout ce qui est cher à votre cœur et que vous ne pouvez abandonner. Et quand les navires seront prêts, le mieux serait de rester dans le port de Lomena, en disant aux hommes que tu te proposes de me rejoindre dans l'Est au moment qui te semblera opportun. Amandil n'a plus tellement la faveur de notre cousin sur le trône que celui-ci puisse se désoler si nous partions, pour un temps ou pour de bon. Mais ne laisse pas deviner que tu as l'intention d'emmener beaucoup d'hommes, sinon il s'inquiétera à cause de la guerre qu'il prépare, pour laquelle il devra réunir toutes les forces possibles. Va en quête des fidèles dont tu sais qu'ils demeurent loyaux, qu'ils puissent te rejoindre en secret, s'ils veulent bien partir avec toi et t'aider dans ton dessein. « Et quel sera ce dessein ?» demanda Elendil. « Ne pas se mêler à la guerre et rester aux aguets, » répondit Amandil. « Je ne peux en dire plus d'ici à ce que je revienne, mais il y a tout lieu de croire que tu fuiras le pays de l'étoile sans étoile pour te guider, car ce pays est souillé. Alors tu perdras tout ce qui t'aura été cher, goûtant à la mort dans la vie, et tu chercheras ailleurs une terre d'exil. À l'est ou à l'ouest, seuls les Valar peuvent le dire. » Puis, Amandil dit adieu à toute sa maisonnée, comme le ferait celui qui va mourir. « Car il se peut, dit-il, que vous ne me revoyez jamais plus, et que je ne vous fasse aucun signe, comme Earendil en a montré jadis. Mais tenez-vous toujours prêt, car la fin du monde que nous avons connu est bientôt proche. » On raconte qu'Amandil s'embarqua de nuit à bord d'un petit navire et qu'il se dirigea d'abord à l'est avant de tourner cap et de passer à l'ouest. il prit 3 serviteurs chers à son cœur, et le monde ici-bas n'en eut plus jamais aucune nouvelle ni aucun signe, et nul ne peut rendre compte ou présumer de leur sort. Pareille ambassade ne pouvait sauver les hommes une deuxième fois, et la trahison de Nouménor ne pouvait si facilement être absoute. Mais Elendil fit comme son père l'avait ordonné, ses navires mouillant sur la côte orientale du pays. Et les fidèles y embarquèrent leurs femmes et leurs enfants, leurs héritages de famille et une grande quantité de biens. De nombreux objets se trouvaient là, remarquables pour leur beauté et leur pouvoir, conçus par les Nouménoréens au temps de leur sagesse. Des pièces d'orfèvrerie et de bijouterie, et des rouleaux où s'inscrivait en noir et en écarlate le savoir des maîtres en tradition. Et il y avait 7 pierres, offertes par les Eldar. Mais le navire d'Isildur préservait le jeune arbre, sillon de Nimloth le Beau. Elendil se tint donc prêt, et il ne se mêla pas aux turpitudes de cette époque, et toujours il guettait un signe qui ne venait pas. Puis, il se rendit secrètement sur les rivages de l'ouest et scruta la mer du regard, car le chagrin et la nostalgie le submergeaient, et il aimait grandement son père. Mais il ne vit rien d'autre que les navires d'Alphalazon concourant au havre de l'ouest. Or, par le passé, dans l'île de Nouménor, le temps avait toujours répondu aux besoins et aux goûts des hommes. De la pluie en saison et en juste mesure, et des jours de soleil tantôt chauds, parfois plus doux, au gré des vents de la mer. Et quand le vent soufflait de l'ouest, beaucoup avaient l'impression que l'air se chargeait d'un parfum fugace, quoique suave, et qui allait au cœur, comme celui de fleurs qui ne laissent jamais d'éclore en des prés immortels et qui n'ont aucun nom sur nos rivages. Mais tout cela avait changé, car le ciel même s'était assombri et le pays était battu par les pluies, la grêle et les vents violents. Et de temps à autre, il arrivait que l'un des grands vaisseaux des Nouménoréens sombra et ne rentra point au Havre, eux qui n'avaient jamais connu pareille calamité depuis l'avènement de l'étoile. Et il venait parfois le soir, à l'ouest, un nuage immense dont la forme rappelait celle d'un aigle déployant ses ailes au nord et au sud. Il montait lentement à l'horizon, éclipsant le couchant, et une nuit noire enveloppait Nouménor. Et quelques-uns de ces aigles portaient la foudre sous leurs ailes, et le tonnerre retentissait entre la nuée et l'océan. Alors les hommes étaient saisis d'effroi.
« Voyez les aigles des seigneurs de l'ouest » criaient-ils. « Les aigles de Manwë se dressent contre Nouménor !»
Et ils tombaient face contre terre. Puis quelques-uns se repentaient, pour un temps, mais d'autres s'endurcissaient, et ils levaient le poing au ciel, disant
« Les seigneurs de l'ouest complotent contre nous. Ils attaquent les premiers. Nous assènerons le prochain coup. »
Le roi lui-même prononça ces paroles, mais elles étaient l'œuvre de Sauron. Or, les foudres se multipliaient et terrassaient les hommes dans les collines, sur la prairie et dans les rues de la cité. Et un trait enflammé s'abattit sur le dôme du temple, fendu en deux et couronné de flammes. Mais le temple lui-même n'était pas ébranlé, et Sauron se tint sur le pinacle, et il défia la foudre et fut indemne. Alors, les hommes le prirent pour un dieu et firent tout ce qu'ils voulaient. Et donc, quand vint le dernier présage, ils en firent peu de cas, car la terre trembla sous leurs pieds et gronda comme un tonnerre souterrain mêlé au rugissement de la mer, et de la fumée apparut au sommet du Meneltalma. Mais Alphalazon se hâta d'autant plus d'accroître son armement. En ce temps-là, la flotte des Nouménoréens noircissait la mer à l'ouest du pays comme un archipel d'un millier d'îles. Leur mât rappelait une forêt sur la crête des montagnes, et leur voile un ciel chargé de nuées. Leur bannière était de noir et d'or. Tout cela n'attendait que le signal d'Alphalazon, et Sauron se retira dans le cœur du temple, où on lui amenait des victimes à faire passer par le feu. Alors les aigles des seigneurs de l'ouest surgirent du couchant, et on eût dit qu'ils étaient alignés en formation de combat sur un rang qui s'étendait à perte de vue. Et à mesure qu'ils avançaient, leurs ailes se faisaient toujours plus larges, embrassant le ciel. Mais l'ouest derrière eux était un incendie, et leur ventre rougeoyait, comme si la flamme du courroux les consumait, et tout Nouménor fut éclairé comme par un feu de braise. Et les hommes s'entre-regardèrent et virent, sur le visage de leur prochain, le pourpre de la colère. Puis Alpharazon endurcit son cœur et s'embarqua sur son grand navire, Alcarondas, le château fort de la mer. Ses rames étaient nombreuses, tout comme ses mâts, gréés d'or et de sable, et on y installa le trône d'Alpharazon. Alors il revêtit sa panoplie et sa couronne, fit hisser son étendard et signala de lever l'ancre. Et à ce moment, les trompettes de Nouménor noyèrent le tonnerre. Ainsi s'avança la flotte des Nouménoréens contre la menace de l'Ouest. Et le vent était faible, mais ils avaient d'innombrables rames et autant de vigoureux esclaves peinant sous le fouet. Le soleil disparut et un grand silence se fit. Les ténèbres recouvrirent la terre, la mer était étale et le monde attendait. Les navires disparurent lentement à la vue des guetteurs au Havre, et leurs lumières s'éteignirent, et la nuit les engloutit. Au matin, ils n'y étaient plus, car un vent se leva à l'est et les emporta, et ils brisèrent l'interdit des Valar, et firent voile sur les mers défendues, apportant la guerre aux immortels pour leur arracher la vie éternelle au-dedans des cercles du monde. Mais la flotte d'Alpharazon surgit du grand large et encercla Avalonée et toute l'île d'Erecea. Et les Eldar s'affligèrent, car la nuée des Nouménoréens éclipsa le soleil couchant. Et Alpharazon parvint enfin en Aman, le royaume béni, et aux côtes du Valinor. Et toujours il régnait ce même silence. Et voici que le destin ne tenait qu'à un fil. Car Alpharazon hésita au dernier moment et manqua faire demi-tour. Une terrible appréhension s'empara de lui à la vue des rivages indifférents et de l'éclat du Taniquetil, plus blanc que neige, plus froid que la mort, silencieux, immuable, ombre redoutable de la splendeur d'Ilúvatar. Mais son orgueil le dominait, et enfin il quitta son navire et foula le rivage de cette terre, et il déclara en prendre possession si nul ne venait la lui disputer. Et un grand régiment de Nouménoréens bivouaqua autour de Tuna, que tous les Eldar avaient fui. Alors Manwë, sur la montagne, fit appel à Ilúvatar, et pour lors, les Valar se désistèrent du gouvernement d'Arda. Mais Ilúvatar manifesta sa puissance et changea la configuration du monde, et un grand abîme s'ouvrit dans la mer entre Nouménor et les terres immortelles, et les eaux s'y engouffrèrent, et le tumulte et les vapeurs des cataractes montèrent au firmament, et le monde fut ébranlé. Et toute la flotte des Nouménoréens fut entraînée dans l'abîme où ils se noyèrent et furent à jamais engloutis. Mais le roi Alpharazon et les guerriers mortels qui avaient foulé le pays d'Aman furent ensevelis dans un éboulement. Et on dit qu'ils demeurent prisonniers là-bas, dans les cavernes des oubliés, jusqu'à la dernière bataille et au jour du jugement. Mais le pays d'Aman et Erecea des Eldar furent emportés et déplacés ailleurs, à jamais hors d'atteinte des hommes. Et Andor, le pays du Don, la Nouménor des rois, Helena de l'étoile des Arendil, périt entièrement. Car l'île se trouvait non loin à l'est du grand gouffre, et ses fondations furent retournées, et elle plongea dans les ténèbres et n'existe plus. Et dès lors, il n'est plus aucun endroit sur terre qui garde le souvenir d'une époque où le mal ait été absent. Car Ilúvatar rabattit les grandes mers à l'ouest de la terre du milieu, et aussi les terres désertes qui sont à l'est, et il fit de nouvelles terres et de nouveaux océans. Et le monde fut diminué, car le Valinor et Erecea en furent exclus, passant dans le domaine des choses cachées. Les hommes rencontrèrent soudainement ce destin inopiné, 39 jours après le départ de la flotte. Alors le feu jaillit du Meneltarma, et il y eut un déchaînement de vent et un tumulte de la terre. Le ciel chavira, les collines s'effondrèrent, et Nouménor bascula dans la mer avec tous ses enfants, ses épouses, ses filles et ses fières damoiselles, et tous ses jardins, ses palais et ses tours, ses tombes et ses richesses, ses joyaux et ses ouvrages, peints, tissés ou sculptés. Et son rire, sa joie, sa musique, et son savoir et sa sagesse, tous disparurent, perdus à jamais. Et pour finir, la grande lame, froide et verte et panachée d'écume, escalada les terres et prit la reine en son sein, Tar-Miriel, plus belle que l'argent, l'ivoire ou le nacre. Trop tard, elle voulut gravir les rudes pentes du Meneltarma jusqu'au lieu saint, car les eaux la rattrapèrent et son cri se perdit dans le hurlement du vent. Et quoi qu'il en fût d'Amandil, s'il parvint ou non en Valinor et si Manwë entendit un jour sa prière, par la grâce des Valar, Elendil, ses fils et leurs suivants, échappèrent au désastre de ce jour. Car Elendil était demeuré à Roména, refusant l'injonction du roi appelant au ralliement. Et s'étant défait des suppôts de Sauron, venu le saisir pour le livrer au feu du temple, il s'embarqua sur son navire et mouilla au large des côtes, ayant résolu d'attendre. Là, la terre ferme le protégea du grand courant de mer qui entraîna tout vers l'abîme, après quoi il fut à l'abri des premières violences de la tempête. Mais quand la lame dévorante déferla sur le pays et que Numenor bascula dans le vide, il faillit être submergé, et périr eût été pour lui un moindre mal, car aucune agonie n'eût été si cruelle que la perte et la douleur éprouvées ce jour-là. Mais le grand vent souffla en tempête depuis l'ouest et le prit avec une sauvagerie jusque-là inconnue des hommes, emportant ses navires au loin. Et il déchira leurs voiles et abattit leurs mâts, ballottant les malheureux hommes comme des fétus sur l'eau. Ses navires étaient au nombre de 9, 4 pour Elendil, 3 pour Isildur et 2 pour Anarion. Et ils firent devant la sombre bourrasque d'un crépuscule fatal vers les ténèbres du monde. Et sous eux, les flots se soulevaient d'un impérieux courroux, et les vagues, comme des montagnes crêtées de neige frisée, les portèrent jusqu'aux nuées naufragées, avant de les rejeter des jours plus tard sur les rivages de la terre du milieu. Et toutes les côtes et les contrées maritimes du monde occidental furent brisées et changées à cette époque, car la mer envahit les terres. Des rivages s'effondraient et d'anciennes îles étaient noyées, tandis que d'autres émergeaient. Des montagnes croulaient, et le cours des rivières se détourna sur d'étranges routes. Elendil et ses fils établirent ensuite des royaumes en terre du milieu. Et si leur érudition et leur savoir-faire n'étaient qu'un lointain écho de ce qui avait été avant la venue de Sauron à Numenor, ils paraissaient considérables aux yeux des sauvages qui peuplaient le monde. Et d'autres traditions ont beaucoup à dire sur les faits et gestes des héritiers d'Elendil dans le nouvel âge qui s'ouvrait, et sur leur lutte contre Sauron, qui ne faisait que commencer. Car Sauron lui-même avait eu grand peur du courroux des Valar et du destin imposé par Elu sur les terres et les mers. Pareil dénouement était bien au-delà de ses espérances, lui qui avait seulement cherché la mort des Numenoréens et la défaite de leur roi orgueilleux. Et Sauron, assis sur son trône noir au milieu du temple, avait ri en entendant les trompettes d'Arphalazon sonner la bataille. Et de nouveau, il avait ri lorsque la tempête avait tonné à ses oreilles. Et une troisième fois, alors qu'il se riait de ses propres pensées, songeant à ce qu'il ferait à présent dans le monde, à jamais débarrassé des Edain, il fut surpris en pleine exultation, et son trône et son temple furent précipités dans l'abîme. Mais Sauron n'était pas de chair mortelle. Et s'il perdit alors cette forme sous laquelle il avait causé tant de mal et ne put jamais retrouver fière apparence aux yeux des hommes, son esprit ressurgit néanmoins des profondeurs et passa sur la mer comme une ombre et un souffle noir. Et il revint en terre du milieu et au Mordor, sa terre d'élection. Là, il retrouva son grand anneau à Barad-dûr et y demeura, sombre et silencieux, jusqu'à ce qu'il se fût donné une nouvelle forme, image de la haine et du mal incarné, et rares sont ceux qui pouvaient regarder dans l'œil de Sauron le Terrible. Mais ces choses n'entrent pas dans le conte de la submersion de Numenor, dont tout a été dit. Et même son nom périt, et désormais les hommes ne parlèrent plus d'Elena, ni d'Andor, le don qui fut repris, ni de Numenoré sur les confins du monde. Mais s'ils se tournaient vers l'ouest, languissant après elle, ces exilés sur les rivages de la mer parlaient de Mar-Nufalmar, disparu sous l'onde, et d'Akalabeth, la déchue, Atalante, en langue eldarine. Parmi les exilés, on était nombreux à croire que le sommet du Meneltarma, le pilier des cieux, n'était pas englouti pour toujours, mais avait ressurgi au-dessus des vagues, îlot solitaire perdu au milieu des flots. Car il s'agissait d'un lieu saint, et nul ne l'avait profané, même au temps de Sauron. Et il s'en trouva plus tard parmi les descendants des Arendil pour aller à sa recherche, car les maîtres en tradition disaient que chez les hommes d'autrefois, ceux qui avaient la vue longue pouvaient, de cette hauteur, entrevoir la lueur de la terre immortelle. Car même après la chute, les cœurs des Dunedain restaient tournés vers l'ouest, et s'ils savaient au fond d'eux-mêmes que le monde avait changé, ils disaient toujours « Avalonné a disparu de la terre, et le pays d'Aman a été emporté, et ni l'un ni l'autre dans ce monde de ténèbres ne peuvent plus être retrouvés. Mais il fut un temps où ils existaient, et partant, ils existent encore, essentiellement et véritablement, dans la forme entière et intégrale du monde tel qu'il fut créé à l'origine. Car les Dunedain croyaient que même les hommes mortels, s'ils trouvaient grâce, pouvaient regarder en d'autres temps que celui de leur existence corporelle. Et ils rêvaient toujours d'échapper aux ombres de l'exil et d'entrevoir de quelque façon la lumière qui ne meurt point. Car leur hantise de la mort les avaient poursuivis au-delà des mers. Aussi leur plus grand marin parcourait-il encore l'immensité des océans, dans l'espoir de trouver l'île de Meneltharma et de se voir offrir une vision du passé. Mais ils ne la trouvèrent point. Et ceux qui naviguaient au loin ne parvenaient qu'aux nouvelles terres qu'ils trouvaient semblables aux anciennes et soumises à la mort. Et ceux qui voyageaient le plus loin décrivaient un cercle autour de la terre et revenaient simplement à leur point de départ, disant de guerre lasse « Tous les chemins sont maintenant fléchis. » Et dès lors, que ce fût par les voyages en mer ou par leur érudition et leur connaissance des étoiles, les rois des hommes surent que, en effet, le monde était désormais rond. Cependant, il était toujours permis aux Eldar de partir pour l'Ouest ancien et pour Avalonné s'ils le désiraient. Et c'est pourquoi les maîtres en tradition, chez les hommes, disait qu'il devait encore exister une voie droite pour ceux qui avaient permission de la trouver. Et ils enseignaient que, si le nouveau monde était rabattu, l'ancienne route et le chemin du souvenir de l'Ouest continuaient en droite ligne, comme un immense pont invisible traversant l'air où l'on vole et respire, et qui est désormais fléchi, tout comme le monde, puis il mène, où la chair ne subsiste pas sans aide, avant d'arriver à Tol Eressëa, l'île solitaire, et peut-être au-delà, en Valinor, où les Valar demeurent encore et suivent le déroulement de l'histoire du monde. Et des contes et des échos se répandaient le long des rivages de la mer à propos de marins et d'hommes perdus en mer et qui, par quelque édit, grâce ou faveur des Valar, s'étaient engagés sur la voie droite et avaient vu la face du monde se dérober sous eux, puis atteint les quais d'Avalonné, éclairés de lampes, ou même les dernières plages sur les confins d'Aman, où enfin ils contemplèrent la montagne blanche, terrible et belle, avant de mourir.